France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il est un musicien tourmenté dans Deux pianos, le nouveau film d'Arnaud Desplechin. Le comédien François Civil sera mon invité à partir de 13h. Mais comme il se doit, c'est la critique qui ouvre cette émission avec deux prix Nobel de littérature portés à la scène. Yon Fossé qui entre au répertoire de la Comédie française sur une mise en scène de Gabriel Dufay et Claude Simon dont l'unique pièce, La Séparation, est mise en scène par Alain Françon au Bouffe parisien. Vous écoutez les Midis de Culture et vous faites ça très bien. Et pour débattre autour de la table aujourd'hui, nos critiques du jour, Anna Sigalevitch, journaliste et auteur, bonjour.
Bonjour Marie.
Vincent Bouquet, journaliste et responsable d'édition du site Scène Web.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. On commence donc avec Étincelle. Sous ce titre, le metteur en scène Gabriel Dufay a rassemblé plusieurs textes de Yon Fossé, prix Nobel de littérature en 2023. Et c'est avec ce montage que l'œuvre de Yon Fossé entre pour la première fois au répertoire de la Comédie française. On retrouve dans ses écrits et ses courtes pièces les thèmes que creuse inlassablement l'auteur norvégien, c'est-à-dire l'amour, le couple, le temps et l'imminence de la mort. Entend-on également sa langue poétique et nimbée de mystère? On va voir ça avec nos critiques et on commence avec quelques mots d'abord, Vincent Bouquet.
Je dirais qu'après les mises en scène mémorables de Claude Régis et de Patrice Chéreau, qu'on associe très souvent à Yon Fossé, eh bien là c'est un Yon Fossé nouvelle génération, un peu qu'on nous donne à voir, que nous donne surtout à entendre Gabriel Dufay, qui est fondé sur une alliance assez subtile entre un langage éthéré des corps et puis un jeu particulièrement incarné. Alors c'est vrai que comme ça sur le papier on aurait pu se dire que c'était un peu risqué, mais à mon sens c'est assez réussi.
Anna Sigalevitch.
Mais moi je trouve... Enfin, je suis pas aussi convaincue que Vincent. Malheureusement, j'ai aussi découvert adolescente ce théâtre. D'abord, en effet, avec Claude Régis, pas les tout premiers, mais disons les deux derniers. C'était il y a très longtemps. Hein, c'était il y a 25 ans. Et j'en garde vraiment un souvenir de perception, d'atmosphère, d'une langue très particulière et d'un univers surtout très particulier qui m'a quand même durablement marquée. Bien sûr. Les mises en scène de Patrice Chéreau dans les années 2010, ces deux pièces qui étaient I Am the Wind, Je suis le vent et Rêve d'automne, qui était aussi, à mon sens, deux spectacles absolument magnifiques. Autant je reconnais absolument la connaissance profonde, la sensibilité de Gabriel Dufay pour ce théâtre-là, mais pour moi il y a un problème de montage et de découpage qui ne me permet pas de faire mon propre parcours personnel et de m'échapper et de partir au-delà, par-delà le texte comme le permet parfois cette écriture.
On va écouter tout de suite un extrait d'Étincelle, mis en scène par Gabriel Dufay.
Vous voulez être libre. Je ne voulais pas continuer à traîner toutes ces chaînes qui me retenaient. Et j'étais... Oui, si jeune. Oui, quand je me suis liée. Oui, quand je me suis retrouvée attachée. Oh, il y a toutes ces chaînes. Oh, il y a tous ces liens que tu connais si bien.
Oui.
Et je voulais créer... Oui, mes propres liens. Je voulais...
Mais maintenant, tu es libre.
Oui, je suppose.
Et tu ne veux pas être libre?
Non, je ne veux pas être libre.
Pourquoi tu ne veux pas être libre?
Parce que quand on est libre, on n'est pas libre, en fait.
Pourquoi?
Parce qu'alors on est attaché. Attaché et attaché par soi-même.
Oui.
Et celui qui est attaché par lui-même et en lui-même, il est...
Seul.
Non, oui.
Étincelle de Yon Fossé au studio de la Comédie Française, c'est jusqu'au 2 novembre sur une mise en scène de Gabriel Dufay. Vincent Bouquet, vous avez quand même évoqué le risque qu'il y avait à une telle entreprise. Quel était-il exactement?
Oui, alors ce risque, effectivement, il est sur un jeu particulièrement incarné, j'allais dire. Parce qu'on l'entend, on l'a d'ailleurs très bien entendu dans l'extrait. Habituellement, Yon Fossé, quand il est monté, il y a un peu un côté... mais aussi parce qu'il y a cet imaginaire qu'on convoquait avec Anna tout à l'heure, de Claude Régis, de Patrice Chéreau, qui l'ont toujours toujours montée de façon, on va dire, très éthérée, très épurée, pour correspondre à cette langue aussi, qui est une langue comme ça qui échappe. Et donc là, sur le jeu, c'est vrai que Gabriel Dufay fait un pari, qui est un pari d'un jeu très incarné, plein d'émotions, plein de sentiments. Et c'est vrai que moi, quand j'ai été un peu surpris au départ, je me suis dit, oula, mais tout cela va pas convenir à Yon Fossé, ça va, le texte va se mettre à résister. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que cela fonctionnait, que cela rapprochait, je trouvais, ces femmes et ces hommes de nous, de nos sentiments, de nos propres turpitudes. Moi, j'y ai vu aussi beaucoup de miroirs dans les difficultés existentielles qu'on traverse tous. Et puis, il y avait quelque chose de plus émotionnellement accessible, j'allais dire aussi. C'est-à-dire que souvent, Yon Fossé, cela parle avant tout à l'intellect. Là, il y avait quelque chose quand même d'émotionnel au plateau. Et puis, ce choix aussi d'un jeu très incarné, il se conjuguait avec un langage des corps, là, cette fois-ci, qui était assez éthéré. Parce que il faut s'imaginer un petit peu le plateau. On a comme ça, des voiles, qui sont des voiles semi-opaques. Et puis, on a deux plans inclinés qui se succèdent avec vraiment comme une sorte d'escalier. Et donc, on va avoir des déplacements comme ça, ces allers-retours des personnages qui vont à la fois grimper sur ces escaliers, les dévaler à chaque fois, et qui vont en fait apparaître presque un peu comme des fantômes. Il y a quelque chose d'un peu de très chorégraphié dans tous les déplacements qu'orchestre Gabriel Dufay. Et là, c'est comme si ces individus, ils étaient nimbés d'une sorte d'aura un petit peu, qu'ils étaient voilà comme ça un petit peu éthérés dans leur allure. Et en même temps, il y a ce jeu particulièrement incarné. Et donc l'alliance des deux aurait pu cogner, ça aurait pu faire des étincelles justement. Mais là, c'est comme s'il y avait une alliance, une sorte d'alchimie qui se créait entre ce langage des mots incarné et puis ce langage des corps très éthéré et qui correspond, je trouve, assez bien à ce que Yon Fossé entend, on va dire, investir avec son théâtre, c'est-à-dire cet espace de gris, de nuances de gris toujours, où rien n'est blanc, rien n'est noir. Il le dit d'ailleurs très bien dans ses entretiens.
Anna Sigalevitch.
Alors moi, j'ai pas tout à fait ressenti les choses comme vous, Vincent. Je dirais presque c'est le contraire que j'ai ressenti. C'est marrant parce que vous parlez de ce langage des corps qui, pour le coup, est plus éthéré. Alors moi, je trouve que les beaux moments du spectacle sont justement, il y a à un moment donné une étreinte très pudique entre Anna Servinka et la jeune actrice Morgane Réal et Clément Bresson dans la première pièce qui se passe donc sans mots, et là pour moi raconte quelque chose d'assez fort et de très touchant. C'est très sensible. Il y a la façon dont les personnages se regardent et se touchent, où là je trouve que ça vit et c'est des beaux moments de théâtre. Ce qui m'a plus gênée, mais d'abord moi ce qui m'a vraiment gênée, c'est la construction en fait du spectacle, qui est fait donc de différents poèmes, de courtes pièces
et d'une introduction sur le théâtre.
Et d'une introduction sur le théâtre. Pour moi, cette introduction sur le théâtre, je ne la comprends pas.
C'est Didier Sandre.
C'est Didier Sandre qui l'a dit. Donc il arrive en scène donc avec ce décor que vous avez très bien décrit. Il glisse comme ça, un peu comme un fantôme, avec une bougie à la main qui peut représenter un peu la servante au théâtre, cette lumière qui ne s'éteint jamais sur une scène de théâtre, qui veille sur le théâtre et sur les acteurs. Donc il arrive en scène avec cette servante, avec un grand manteau long, il est pieds nus, et puis il parle du fait que un ange passe par la scène. Quand le théâtre est beau, quand le théâtre est à son apogée, on dit en hongrois qu'un ange passe par la scène. C'est une expression qui n'existe pas dans d'autres langues scandinaves, peut-être pas dans d'autres langues, mais pour lui, elle décrit très bien ce qui peut se passer de magique à certains moments, parce que ça ne peut pas durer toute la représentation, mais à certains moments au théâtre. Donc, il raconte ça. Pour moi, ce texte, franchement, je ne comprends pas ce texte. C'est-à-dire que Yon Fossé, qui est tellement dans une forme de, à la fois de concret, mais d'abstraction, de part des mots. Là, je trouve que c'est extraordinairement explicatif, didactique, que c'est comme une note d'intention au début, qui, pardon, peut-être qu'on peut pas dire ça d'un prix Nobel de littérature, mais je l'ai ressenti, si je suis sincère, je trouve que c'est pas très intéressant, en fait, ce texte, qui est un texte qui est quand même une note de programme pour le spectacle L'Enfant, qui était monté il y a une vingtaine d'années en Norvège, je crois. Bon, alors il choisit de commencer le spectacle par ce texte. je comprends l'idée qui est comme une déclaration d'amour au théâtre de Jon Foss, qui pour lui permet ça, parce que le texte dit aussi quand un texte est très fort, il peut permettre, si la représentation se passe bien, que ça advienne, cet ange passe par la scène. Mais là, ça m'a paru très explicatif, très appuyé, et pour moi, ça coupe l'herbe sous le pied à ce qui va se jouer après. Parce qu'on nous explique ce qui peut-être va arriver.
Et qui n'arrive pas.
Pour moi, qui n'arrive pas complètement, non.
Vincent Bouquet.
Oui, alors que pour moi, ça arrive. En fait, il y a une sorte comme ça, évidemment, de propos un peu introductif, quasi liminaire, en fait. Un discours comme ça, un peu méta-théâtral, qui est produit, avec d'ailleurs Didier Sandre, qui arrive avec, j'allais dire, l'attitude la plus faussienne de tous. Parce qu'on a l'impression, comme ça, que c'est quelqu'un qui est un peu revenu de tout, qui a déjà tout compris, qui tirerait peut-être les ficelles de ce qui va se jouer ensuite. Parce qu'ensuite, dans ce montage, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, et notamment, je trouve que on voit bien la très fine connaissance de Gabriel Dufay de Jon Foss, parce que si je veux pousser un tout petit peu le bouchon, j'ai eu l'impression d'assister à une unique pièce. C'est-à-dire que j'avais la sensation, alors que ces pièces, elles ont été écrites entre 1990 et 2010, donc à la fois elles permettent comme ça de voyager dans le temps, de voyager dans l'œuvre de Jon Foss, et en même temps, elles vont, on découvre comme ça un Jon Foss qui va vers toujours plus d'épure, qui, avec une dramaturgie au départ qui est très concrète quand même, on a l'impression carrément d'être pas dans un vaudeville ou un boulevard, mais il y a quand même un résumé qui est un homme qui est amoureux fou d'une jeune femme qui est elle-même courtisée par un jeune homme et qui décide de quitter le foyer pour vivre pleinement cet amour. Bon, il y a comme ça quelque chose de très concret. Et puis la dernière pièce, la toute dernière pièce qui s'appelle « Vivre dans le secret », eh bien elle va être dans une forme d'abstraction quasi métaphysique, avec cet homme et cette femme qui sont en randonnée, et puis tout d'un coup on a cet homme qui aperçoit une lueur. Alors moi, là, j'ai retrouvé l'ange avec cette lueur qu'il aperçoit, sa femme ne comprend pas trop, et puis en fait c'est sa mort, et donc il se dirige vers la mort. Et donc c'est comme si le couple de départ entre la jeune femme et l'homme qui a quelques années de plus qu'elle, on comprend, et puis ce vieil homme qu'on retrouve à la fin avec cette femme qui a un âge un petit peu plus mûr, eh bien c'était comme si c'était le même couple finalement, pour moi, selon moi. Et puis entre deux, on va avoir comme ça des pièces où par exemple dans la seconde pièce qui s'appelle Liberté, avec une femme cette fois-ci qui a quitté le foyer familial et qui souhaite y revenir, eh bien là c'est une sorte de double de l'homme qui de la première pièce. Et donc comme ça on va avoir, moi j'ai vu un peu le vertige de tous les virages qu'on peut prendre dans la vie, et puis si on prend tel virage, eh bien cela va advenir, telle chose va découler, et oui, et si on avait fait autrement. Et donc là, moi j'ai trouvé que c'était très fin, c'est ça qui m'a vraiment assez intéressé dans ce montage textuel.
Un dernier petit mot.
Oui, mais moi, Anna, c'est justement ce qui m'a gêné. Et si on fait ça, il se passe ça. Et si on se fait ça, il se passe ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu rationnel dans ce que vous dites. Alors oui, bien sûr, on sent la connaissance fine, poussée et même sensible, bien sûr, de l'œuvre de Jon Foss de la part de Gabriel Dufay. Mais pour moi, il y a quelque chose de rationnel, alors que justement, dans les pièces de Jon Foss, on part de situations très simples, très concrètes, triviales même, et on s'échappe et ça se déploie petit à petit. Et là, le fait que ça s'enchaîne, on est à chaque fois ramené à des situations trop concrètes qui ne permettent pas, à mon sens, de s'échapper.
Étincelle, au studio de la Comédie Française jusqu'au 2 novembre, sur une mise en scène de Gabriel Dufay.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Je voulais dire, en ouverture, vous ne voyez pas les jolis gestes que font nos deux critiques aujourd'hui pour décrire leur ressenti. C'est très beau de vous voir, une petite chorégraphie. Bon, La séparation, c'est l'unique pièce que le romancier prix Nobel de littérature en 1985, Claude Simon, est écrite. Alain François en donne sa version en ce moment sur les planches des Bouffes Parisiens. Ce titre, La séparation, informe déjà sur ce que l'on voit sur scène, puisque deux cabinets de toilettes sont séparés par une cloison. D'une part et d'autre, deux couples, les parents vieillissants d'un côté, Catherine Yégel et Alain Libolt, et le fils et sa femme de l'autre, Pierre-François Garrel et Léa Drucker. Deux couples en crise, quatre personnages en difficulté, et les mots du quotidien qui cachent l'abîme. Quelques mots d'abord, Anna Sigalevitch.
Ah là, vraiment, j'ai été très 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 emballée par ce spectacle que je trouve absolument magnifique, d'une profondeur et d'une densité exceptionnelle. Alors, je ne parlerai pas de leçon de théâtre, parce que c'est un mot que que je n'aime pas beaucoup. Enfin, c'est pas très joli de parler de leçons de théâtre, mais je parlerai peut-être d'un bain de jouvence théâtrale. Et j'ai eu le sentiment, vous savez, ce qu'on peut ressentir en musique parfois quand on écoute un morceau qui est interprété d'une façon tellement juste où on se dit mais c'est ça, c'est exactement ça. Il y a, si je parle en piano par exemple, il y a des pianistes comme ça, comme Dino Lipati, Clara Askill, Radouloupou, quand ils jouent, Richter aussi quand ils jouent, Bach, Schubert, Mozart, on a l'impression d'être complètement connecté à l'œuvre sans filtre. Et là, pour moi, on a exactement ça. Alors attention, il s'agit pas de ne pas interpréter. Au contraire, c'est très interprété, mais c'est tellement au service du texte, tellement juste, que c'est très extraordinaire.
Vincent Bouquet.
Je vais filer la comparaison musicale. Je crois qu'on a affaire à un Mozart du théâtre avec Alain Françon. Je crois qu'il y a vraiment de ça. C'est-à-dire que là aussi, pour moi, j'y suis allé un petit peu, on va dire un peu tremblant, parce que comme ça, ressusciter une pièce tombée dans l'oubli, oula, ça peut toujours être un pari, là aussi, très risqué. Et en fait, Alain Françon, grâce toujours à cette lecture des textes incroyables, à cette direction d'actrice et d'acteur, qui est toujours d'une précision là aussi incroyable, eh bien, il arrive à donner tout le relief à cette séparation. Et puis, il y a aussi le talent des comédiennes et des comédiens, notamment de Catherine Yégel et Pierre-François Garrel, qui arrivent à l'activer assez magnifiquement.
Alors, Anna Sigalevitch, c'est vrai que, comme le disait Vincent Bouquet, c'est une pièce qui n'avait pratiquement pas été jouée. Elle est très peu connue.
Non, parce que en effet, bah, moi, je vous avoue que j'ignorais même l'existence en fait de cette pièce. Donc unique pièce. Au moment de la création, ça s'est très mal passé. Il s'est fait beaucoup attaquer par la critique. Voilà, vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Ça, aussi, c'est...
Ouais, ça peut rester surtout.
Que, mais ça peut rester, ça peut faire du mal. Bon, on est quand même pas grand chose nous les critiques. Hein. Il faut quand même se dire ça aussi ça, de temps en temps. Voilà, même si on est quand même là pour dire ce qu'on pense, donc on va le faire, mais voilà. En tout cas, donc voilà, la pièce en effet a été enterrée. Là, elle est remontée. Alors, comme fait toujours Alain Françon, c'est-à-dire que le décor que vous avez un petit peu décrit, Marie, qui est en effet en deux parties, on a ces deux cabinets de toilettes à cour et à jardin, séparés par une cloison, avec des miroirs qui se font face, en fait, séparés par... Donc quand c'est surtout les femmes, quand Léa Drucker, qui est à jardin, et Catherine Yégel est à cour, se regardent chacune dans leur miroir, en fait, elles se regardent l'une l'autre, hein, le passé ou l'avenir, ou le présent, enfin on ne sait pas, bon, la temporalité est assez particulière. C'est un décor qui est assez clair, qui est assez lumineux. On sent qu'on est dans une maison de campagne. On sent la nature aux fenêtres. On entend le chant des oiseaux. C'est très simple et c'est précisément ce qu'avait proposé Claude Simon. On voit même
dans les
méridiennes.
Voilà.
Ah, oui. Et puis il y a des dessins parce qu'il était peintre aussi Claude Simon et donc il a dessiné ce décor qui a à peu près reproduit Alain Françon, en l'inversant toutefois, c'est-à-dire ce qui était à court est à jardin et là ce qui est à jardin est à court. Bon, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, bon, en tout cas, voilà. Donc, on a ça et ensuite, on a ce dispositif qui est simple et qui donne de l'espace avec ce premier couple qui entre en scène, donc incarné par Léa Drucker et par Pierre-François Garrel. Dès cette première scène, beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses. Et on comprend que là, ça va être dense, qu'il va se passer beaucoup de choses dans les mots, mais qu'il va se passer aussi beaucoup de choses dans les silences. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a énormément de choses qui se racontent et on sent, c'est fou parce que en une première scène, avec notamment un long monologue de Léa Drucker, que vous avez salué le talent de Catherine Yégel et de Pierre-François Garrel, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut aussi dire, et c'est assez touchant ce que fait Léa Drucker, je trouve, dans le spectacle, l'humilité qu'elle a. C'est une fille qui fait quand même une grande carrière au cinéma, qui là va au théâtre avec Alain Françon, ce qui veut dire beaucoup de travail, qui veut dire une humilité par rapport au texte. Et je trouve qu'elle a une modestie en scène, une justesse, et elle a une façon d'être au service du théâtre qui, moi, me touche énormément, et je la trouve magnifique aussi. Enfin, ils sont tous bien, il faut citer aussi Catherine Ferrand, il faut citer aussi Alain Libault, ils sont tous très très bien. C'est vrai que Catherine Yégel est un génie, donc il y a quelque chose qui est fou dans ce qu'elle fait, mais quand même, ils sont... Je ne dis pas que les autres sont pas géniaux, ils sont tous très très bien, attention. Voilà.
Et puis donc, c'est la question de la partition, je crois.
Et c'est la question de la partition. Et en effet, sur cette histoire de rythme, comme vous le disiez, Vincent, C'est extrêmement savamment orchestré, c'est une partition musicale dès le départ avec des accélérés, avec des ralentis, avec des silences, avec des points d'orgue et tout qui se joue comme ça. Au-delà des mots, par-delà les mots, et dans les mots, parce qu'il y a énormément de textes, c'est très très littéraire, et c'est aussi une très belle langue dans laquelle ils mordent et qu'ils servent avec autant de grande présence que d'humilité.
Qu'est-ce qui se passe dans ce, entre ces deux couples, Vincent Bouquet, pour qu'on resitue quand même un petit peu le nœud du problème?
Oui, alors j'allais dire, là je vais faire une description d'un théâtre purement bourgeois, c'est d'ailleurs ce qui lui avait été reproché en 1963. Oui. Hein. On avait dit, les critiques disaient que c'était un théâtre bourgeois, alors il y a même, j'ai été re-regardé la critique du Monde de l'époque, qui était signée Bertrand Poirot-Delpech, qui était à l'époque le grand critique du Monde, qui disait que c'était carrément la répétition d'un exercice d'école. Donc vous voyez,
entre autres... Ils beaucoup plus méchants que vous, hein, les critiques à
l'époque.
Ah oui,
ça beaucoup, va. Beaucoup, effectivement. Et puis Claude Simon lui-même était déçu par la première représentation à laquelle il avait assisté. Et donc, en fait, effectivement, c'est un théâtre assez bourgeois en façade. On a ces deux couples, donc il y a Georges et sa femme Louise d'un côté, et puis il y a les parents de Georges, Sabine et Pierre qui sont de l'autre. Ils sont réunis dans cette maison que vous avez très bien décrite, Anna, eh bien, en attendant la mort de la tante de Georges, qui est au soir de sa vie, qui en fait est la tante, qui est inspirée de la tante, la propre tante de Claude Simon, qui s'appelle Tante Mie. Et alors là, ce qui est étonnant, c'est que plutôt que d'être au chevet de cette femme qui va mourir, eh bien, ils passent leur temps à deviser sur eux-mêmes, sur leur mal-être, sur leur quotidien, sur leurs difficultés. Alors on a Sabine qui se plaint d'être délaissée par son mari, qu'elle soupçonne d'être volage depuis des années. Et puis on a Louise, de l'autre côté, qui est prête à quitter Georges, on comprend, pour un autre homme, car elle n'est plus vraiment satisfaite de sa vie. Alors comme ça, on se dit, rien de neuf sous le soleil du théâtre bourgeois, on va dire ça comme ça. Et puis en fait, et c'est là que c'est très très beau, c'est que au-delà de ces apparences-là, et Anna, vous avez d'ailleurs extrêmement bien dit sur ce texte, moi, il m'a fait peur au départ. C'est vrai que le premier, alors moi j'étais en plus le soir de la première, et le premier élan comme ça de Léa Drucker, je me suis dit, oh là là, mais ce texte logorique.
Parce qu'en fait,
il y avait comme ça un texte qu'elle... C'était difficile pour elle de l'appréhender, j'avais l'impression. C'est-à-dire qu'elle a lancé un peu... Elle lance le spectacle, c'est toujours une très grosse responsabilité de lancer un spectacle comme ça, avec un monologue. Et là, elle était très fragile et on sentait qu'il y avait comme ça la parole logoréique qui n'allait pas être activée, en réalité. Et puis, au fur et à mesure, elle s'est aussi laissée emporter. Et puis, je pense qu'il y a un certain métier de Léa Drucker, évidemment. Et puis, elle s'est laissée emporter par ses compagnons de jeu, on va dire ça comme ça. Et là, à ce moment-là, cette parole logoréique, eh bien, on se rend compte qu'elle n'est que le symptôme d'un mal-être. C'est-à-dire, elle est faite, elle est là, elle existe pour ne pas parler des vrais problèmes. Et donc, on va avoir comme ça une parole qui est une parole très égocentrée, dans laquelle, comme disait Claude Simon, se cachent des ruisseaux souterrains. Et en fait, ces ruisseaux souterrains, eh bien, Alain Françon va les révéler, va les faire remonter à la surface. Et en réalité, eh bien, on va avoir comme ça aucune phrase, aucun mot, aucun silence, comme vous le disiez, Anna, qui n'est laissé au hasard. Et donc, on va avoir des personnages qui vont être dans une sorte d'incapacité à vivre, en réalité. C'est comme s'ils étaient un peu déjà morts et qui sont dans un état de délabrement qui est quand même assez avancé, les uns les autres, qui se répondent avec quand même ces deux générations qui se répondent beaucoup. Et puis, d'ailleurs, la nature que vous décriviez, environnante, eh bien, elle aussi, elle est comme ça prise avec... Il y a les poires qui pourrissent.
Ah oui, les poires qui pourrissent. Il y a 5 hectares de poires et les poires pourrissent quand même. Hein, donc
c'est
ils sont.
Là, il le dit à fond.
Ah ouais, mais on ressent ça, vraiment.
Et en même temps, il y a le maïs qui sèche. Alors, c'est très étonnant parce qu'on va avoir comme ça... Et c'est vraiment cette symétrie-là aussi qui est dans le décor et ce parallélisme des vies qui est comme ça matérialisé dans ce décor qui est vraiment extrêmement beau. Et partout, c'est-à-dire qu'on va avoir les lettres, par exemple, qui sont symboles d'infidélité de part et d'autre. On va avoir le passé de conscrit du père de la Première Guerre mondiale qui répond au passé de conscrit du fils de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on va avoir des dommages physiques pour le père, des dommages psychologiques pour le fils. Et donc là, et puis une incapacité à s'entendre au sens propre comme au sens figuré de chaque côté. Et donc là, on voit qu'évidemment, la façade du théâtre bourgeois, elle se fissure et on est vraiment dans du Claude Simon.
Anna Sigalevitch, on sait que pour Alain Françon, le rythme, la, la, le rythme de la phrase est très très important. On le retrouve ici, j'imagine.
Ah oui, on le retrouve complètement, comme je le disais, vraiment comme une partition musicale avec des moments de suspension. Léa Drucker, par exemple, elle ne parle jamais très fort. On sent qu'elle ne peut pas parler trop fort, que c'est pour elle trop difficile. Enfin, Léa Drucker, le personnage, je veux dire de Louise, évidemment. Et en effet, c'est vrai que ce qui est fou, c'est comme on entend tout les mots, comme on entend tous les silences, comme on ressent tout ce que ressentent et ne disent pas les personnages, parce que c'est des personnages qui ont énormément de mal à être connectés aussi à eux-mêmes. Il y a ce texte, ce premier texte de Catherine Yeagel qui pour moi raconte beaucoup de choses aussi. Elle est coiffée n'importe comment, elle sort de chez le coiffeur, elle est furieuse de la façon dont elle a été attifée, si je puis dire.
C'est vrai que c'est pas très réussi.
C'est pas très réussi, donc Louise va un peu arranger ça, et donc elle dit qu'elle déteste sa coiffure. Elle est donc coiffée comme ça. Elle déteste l'été. On est en plein milieu de l'été. Elle déteste la campagne. On est à la campagne. Et elle déteste la mort. Et la mort est là. Donc ça plante quand même le décor. Moi, je trouve que ça fait pas vraiment théâtre bourgeois quand même de dire ça, il me semble. Donc elle dit ça. Et c'est aussi une pièce beaucoup sur le déterminisme, sur ces personnages qui n'arrivent pas à échapper à leur destin, qui regardent leur passé, leur avenir, et qui n'arrivent pas à bouger dans ce domaine, qui sont complètement empêtrés. Il y a une chose qui est terrible, c'est que cette vieille tante Marie, dont on attend la mort, qui est gardée par Catherine Ferrand, qui vient comme une espèce d'ange de la mort, comme ça, régulièrement s'adresser à Louise, qui est la seule personne qui s'occupe d'elle et qui est un peu humaine avec elle, parce que Sabine, Catherine Yeagel, ne peut pas aller la voir, ça lui est insupportable. Et elle dit une chose, enfin d'ailleurs c'est pas Catherine Ferrand qui dit ça, mais on voit une photo de la tante Marie à 25 ans et on dit mais elle était déjà ce qu'elle est aujourd'hui. C'est terrible. Oui. Et le spectacle raconte aussi beaucoup ça, la façon dont on n'arrive pas à échapper à son destin et dont on se regarde en miroir intergénérationnel et
La séparation de Claude Simon, mise en scène par Alain Françon, c'est au théâtre des Bouffes Parisiens à Paris, donc évidemment jusqu'au 4 janvier prochain. Anna Sigalevitch, Vincent Bouquet, merci beaucoup.
Merci.